Radio Okapi. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'écoute de ce journal sur la fréquence de la paix, dont voici d'abord les titres. Lutte contre le coronavirus, c'est après le déconfinement qu'on devra encore redoubler de vigilance dans le respect des gestes barrières. C'est l'appel de la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC. Madame Leila Zerugui, qui s'exprimait ce lundi sur Radio Okapi, appelle les Congolais à plus de conscience et de responsabilité en cas de déconfinement. La peste bubonique fait 9 morts sur 45 personnes malades dans la zone de santé d'Eriti en territoire de Djougou. Nous sommes dans la province de l'Ituri. Le coordonnateur du centre de surveillance et de lutte contre la peste en Ituri appelle la population au respect des mesures d'hygiène pour freiner la propagation de cette maladie. Est-il nécessaire de saisir la Cour pénale internationale pour des crimes graves et cruels commis notamment dans l'est du pays? Pour Madame Leila Zerugui, représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, l'idéal c'est de voir d'abord la justice congolaise s'en occuper. Vous suivrez la chef de la MONUSCO avant la fin de ce journal. Elle est notre invitée. Aucun pays ne sera confiné indéfiniment, mais un déconfinement sans respect des mesures barrières peut déboucher sur des ravages, a déclaré ce lundi à Radio Okapi la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU. Leila Zerugui appelle les Congolais à plus de conscience et de responsabilité, surtout en cette période de déconfinement des activités en lien avec la crise du Covid-19. Elle a été jointe par Honoré Missenga Kalala.
Je sais qu'on est dans un contexte où les populations ont l'habitude de mourir de maladies. Donc mon message, c'est de dire, oui, nous comprenons qu'on ne peut pas rester confiné éternellement, mais déconfinement ne veut pas dire relâchement. Moi, j'insiste d'abord avec tous les Congolais, avec tous ceux qui vivent dans ce pays, mais j'envoie un message particulier à mes staffs. Faites attention, le déconfinement peut aussi entraîner des pics. Il faut respecter les mesures de distanciation. Si on a un symptôme, on doit tout de suite alerter et on doit rester chez soi. Vous avez parlé de l'épicentre, c'est Kinshasa. C'est une ville de 15 millions d'habitants, peut-être même plus, avec des capacités sanitaires très limitées. Et si on ne fait pas attention, donc on risque de mettre non seulement notre propre vie en danger, mais aussi celle des autres.
Restaurer l'autorité de l'État et sensibiliser la population de Kindu à se prémunir contre la Covid-19, c'est l'objectif d'une tournée qu'organise le bourgmestre de la commune de Mikelenge dans son entité. Kipala Motopenewawa s'est rendu hier lundi dans quelques quartiers et blocs tels que Lukunda, Lumbulumbu et celui qui porte son nom dans la ville de Kindu. Il a exhorté tous ses administrés à observer les mesures barrières pour barrer la route au coronavirus. Norbert Kipalamoto Penewawa est au micro de Mathieu Ilunga Chamboui.
Dans le bloc Kipalamoto, dans les quartiers aussi, Mikelenge, toujours dans le cadre de mon itinérance, en fait, de restaurer l'autorité de l'État et surtout celle de sensibiliser la population sur cette fameuse pandémie de la Covid-19. Respectons les mesures barrières et encore monter des stratégies ensemble avec ma population sur leur sécurité.
Le Fonds national de solidarité contre le coronavirus annonce avoir reçu des partenaires sociaux et économiques ainsi que des volontaires un total en espèces de 2 484 400 $ américains logés dans son compte bancaire et plusieurs biens en nature. Ces dons ont été orientés vers les hôpitaux et centres médicaux où les malades de Covid-19 sont soignés. C'est ce qu'a affirmé le coordonnateur de ces fonds, le révérend pasteur Dominique Mukanya, hier à Kinshasa. Il a fait le point sur les dons reçus, les réalisations sur terrain et les perspectives. Un reportage signé Jeff Ngoy.
De l'argent en nature et en espèces pour subvenir aux besoins de la communauté frappée par la pandémie de coronavirus et prendre en charge les personnels soignants et autres. Le coordonnateur du Fonds national de solidarité contre cette maladie, Dominique Mukanya, en donne les détails.
Nous avons reçu d'abord de la CNSS $1 million, de la banque TMB $250 000, d'une église de l'ECC $5 000, des députés, une sénatrice, 2 842 $ de Equity Bank, 1 million de dollars à l'achat du matériel.
Qu'est-ce que le fonds a fait de tous ces dons?
Nous avons remis des subsides à 4 centres hospitaliers, Moncolé pour 150 000, l'hôpital Saint-Joseph, 150 000 pour l'achat des équipements, dont un groupe électrogène de 350 kVA, l'hôpital Mamayemo pour 150 000 $, achat des équipements pour équiper le centre COVID en construction et enfin les cliniques universitaires.
En perspective, le FNSC compte remettre des subsides aux centres hospitaliers visités en province, notamment au Congo central, précisément à Kisantu, Nkamba, Kikanda, Boma et Tchela.
La crise liée au coronavirus dépasse de très loin la crise sanitaire elle-même au point qu'il faille appliquer des mesures rigoureuses pour sauver l'économie congolaise. C'est ce qui ressort de la revue scientifique Congo Challenge, publiée ce lundi à Kinshasa, qui revient sur l'économie congolaise en 2020, frappée par les effets de la COVID-19. L'éditeur de cette revue, le sénateur Augustin Matatamponio, estime que le gouvernement doit sans tarder réduire les trains de vie des institutions, notamment en réduisant l'équipe gouvernementale et investir dans les secteurs productifs comme l'agriculture industrielle pour sauver l'économie nationale. Les détails avec vous, Michel Kifindangoy.
À en croire le responsable de la rédaction de cette revue scientifique, suite à la COVID-19, la RDC ne pourra mobiliser d'ici la fin de cette année que 3 milliards de dollars sur les 11 milliards projetés dans le budget 2020. Il redoute donc la dévaluation accrue de la monnaie nationale durant les prochains mois où le taux du jour pourra même dépasser à plus de 2600 francs congolais pour 1 dollar américain. Jean-Baptiste Ntagoma.
Le choc sanitaire du COVID a eu des répercussions graves sur l'économie. La chute des recettes publiques, il est à craindre un resserrement du marché du travail, des licenciements massifs, des mises en congé techniques. Il y a la crise alimentaire qui va suivre. Les inégalités sociales vont certainement se creuser.
Le sénateur Augustin Matatamponio, éditeur de la revue Congo Challenge, plaide pour la mise en œuvre urgente des mesures rigoureuses qu'il propose pour sauver l'économie congolaise.
La stabilité des prix, c'est la clé de l'économie. Voilà pourquoi nous avions suggéré à l'époque l'ajustement des dépenses globales par l'ajustement institutionnel. L'un des meilleurs moyens pour réduire la pauvreté, c'est d'investir dans le secteur agricole. Parce qu'immédiatement, on touche près de 70% de la population.
Il parle de la nécessité de voter un collectif budgétaire et de réduire sensiblement la taille de l'équipe gouvernementale.
Comme je le disais dans les titres, plus de 45 cas de peste bubonique avec 9 décès sont enregistrés depuis une semaine dans la zone de santé de Réti en territoire de Djougou, dans la province de l'Ituri. Le coordonnateur du centre de surveillance et de lutte contre la peste en Ituri déclare que le territoire de Djougou constitue le foyer de cette maladie, car une grande partie de la population passe la nuit par terre et s'expose ainsi aux morsures des rats. Il appelle la population au respect des mesures d'hygiène pour freiner la propagation de cette maladie. Docteur Gustave Lossa, le nom est au micro d'Ezekiel Mouzalia.
Ce qui se passe maintenant dans Djougou, c'est la zone de santé de Réti qui connaît des cas de peste. Et à ce jour, la zone de santé a déjà notifié 45 cas avec 9 décès. La peste vit d'une façon ordinaire chez les rats. Et sur les rats, il y a la puce qui est là. Et cette puce s'alimente sur les rats. Et si c'est un rat qui est infecté, à ce moment-là, vous voyez la puce sera aussi infectée. Et va chercher à piquer l'homme, accidentellement bien sûr, parce que ça peut aussi piquer d'autres animaux. Les modes de prévention, il faut surtout éloigner le plus possible les rats des milieux où on vit. Et en même temps, la protection de le stock alimentaire, parce que les rats suivent les mêmes aliments que nous mangeons et ils viennent s'alimenter dans la maison et à l'occasion peuvent...
Rendons-nous dans la province du Kwilu où une autre maladie décime cette fois les bovins dans les territoires des Bagata, dans le village Sia. Le député national Gary Sakata, élu des Bagata, fait savoir que cette épidémie a déjà occasionné la mort de plusieurs vaches. Il indique qu'une délégation des députés nationaux de ces territoires a rencontré la semaine passée le ministre national de la pêche et élevage pour discuter de ces sujets. Selon lui, le ministre a préparé un plan de riposte pour mettre fin à cette épidémie, mais les finances font défaut à l'heure actuelle pour l'exécuter. Gary Sakata demande donc l'aide du gouvernement central pour résoudre ces problèmes. Le point avec Irène Boma.
Le village Sia dans le territoire de Bagata au Kwilu est touché par l'épidémie bovine qui a déjà causé la perte de plusieurs vaches, a fait savoir le député national Gary Sakata, élu de ce territoire. Selon lui, les bêtes atteintes présentent comme symptômes notamment les rhumes, l'affaiblissement et le gonflement de la peau, puis survient la mort. Étant donné que ces bêtes constituent l'élément principal de l'économie locale, comme estime Gary Sakata, cette question était au centre d'un échange la semaine dernière entre les députés nationaux élus de Bagata et le ministre national des pêches et élevage. Sakata indique que ce dernier a préparé un plan de riposte contre la dite épidémie, mais il est buté sur le plan financier. C'est dans cette optique qu'il sollicite l'implication du gouvernement congolais.
En ce qui concerne la politique de son ministère, il a préconisé qu'on puisse procéder à une vaccination générale sur l'ensemble de la province et que les bêtes qui sont déjà atteintes soient traitées, mais que les autres soient vraiment vaccinées pour tenter de réduire ou mettre fin à cette épidémie. Mais il est buté parfois par des questions de financement. Nous demandons également au gouvernement de faire en sorte qu'on facilite le travail du ministre de l'élevage et de la pêche pour qu'il aille de l'avant.
Il est lié de noter que cette épidémie bovine du type pasteurellose qui est à l'origine de la mort de ces vaches est en train de tenter de progresser vers le territoire du Djofa, a ajouté le député Gary Sakata. Irène Mboma, Bandunduville Radio Okapi.
Actualité internationale.
La course au vaccin contre le COVID-19 avance avec les résultats lundi d'essais cliniques encore préliminaires mais encourageants sur deux projets, un projet britannique et un chinois, qui génèrent une forte réponse immunitaire et sont bien tolérés par les patients. Le premier vaccin, développé par l'Université d'Oxford en partenariat avec le laboratoire AstraZeneca, a généré la production d'anticorps et de lymphocytes T dans un essai clinique sur plus de 1000 patients. Le second projet de vaccin, mené à Wuhan en Chine par des chercheurs de plusieurs organismes, dont l'École militaire des sciences médicales, a également entraîné cette double réponse immunitaire contre le coronavirus chez la plupart des participants, selon un essai clinique portant sur environ 500 personnes. Ces résultats ont été publiés dans la revue britannique de Lancet. Les députés égyptiens ont approuvé lundi une possible intervention armée en Libye si les forces du gouvernement de Tripoli, soutenues par la Turquie, continuent leur avancée vers l'est du pays, a indiqué le Parlement. La Chambre a approuvé à l'unanimité l'envoi d'éléments de l'armée égyptienne dans des missions de combat hors des frontières de l'État égyptien pour défendre la sécurité nationale égyptienne, selon un communiqué du Parlement. Si le Parlement ne cite pas le nom de la Libye dans son communiqué, les débats, eux, portaient bien sur ses pays voisins.
L'invité.
L'idéal pour la MONUSCO est de voir d'abord la justice congolaise se saisir des crimes graves et cruels commis notamment dans l'est du pays et il appartiendrait, si c'est nécessaire, au gouvernement congolais de solliciter l'appui de la CPI. Déclaration de Leila Zerugui, représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, au cours d'une interview lundi à Radio Kapi sur les atrocités commises par les ADF au cours des 18 derniers mois. La chef de la MONUSCO a aussi répondu à d'autres questions, notamment celle de son rôle de bons offices dans les contextes de tensions politiques observées ces dernières semaines entre des partenaires de la coalition gouvernementale. Madame Leila Zerugui s'entretient avec Honoré Missenga Kalala.
Madame la représentante spéciale, bonjour.
Bonjour.
Dans son dernier rapport sur les violations des droits de l'homme dans l'Est par les ADF, le bureau conjoint parle de graves et violentes attaques mortelles qui pourraient constituer des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. Quel a été votre sentiment quand vous avez lu ce rapport?
Merci beaucoup pour la question. Je voudrais peut-être commencer par préciser que le rapport des droits de l'homme, je l'ai pas lu, je l'ai reçu finalisé. Le rapport des droits de l'homme est un rapport de la MONUSCO, donc c'est un travail qui a été décidé par la mission. Nous avons commencé à faire des rapports ciblés par province affectées par le conflit. Nous avions, à l'occasion de la visite de Madame Bachelet, sorti le rapport sur l'Ituri. Nous avons publié un rapport ici sur les incidents qui ont suivi l'arrestation du chef de Bundudia Mayala à Kinshasa et nous avons décidé qu'on va faire aussi un rapport sur le Grand Nord et sur les violations commises par ADF et les autres groupes armés qui opèrent dans cette zone. Nous sommes aussi en train de préparer d'autres rapports sur d'autres zones. Donc l'objectif de la publication de ce rapport, c'est de révéler c'est d'informer l'opinion nationale et internationale sur les exactions et les crimes graves qui sont en train de se commettre et ont été commis dans cette zone du pays. Vous avez vu, c'est quand même des crimes extrêmement graves, des femmes violées, des personnes exécutées, mutilées, des attaques pernicieuses et vicieuses. On arrive la nuit avec des machettes et on massacre des populations, non pas parce qu'on est en guerre avec ces populations, mais parce qu'on les prend comme cible à cause du fait qu'on est dans une opération militaire avec les FARDC, et pour décourager cette opération, on va aller chez des gens qui n'ont rien à voir, juste parce qu'ils se trouvent dans la proximité, qui se font massacrer, qui se font violer, enlever. Donc pour nous, nous avons insisté sur le fait que ces faits sont extrêmement graves, constituent des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, et pour que ceux qui commettent ces crimes répondent de leurs actes. Je crois que la meilleure récompense pour ceux qui subissent ces souffrances, c'est de voir ceux qui commettent ces crimes répondre de leurs actes devant un tribunal, et c'est ça aussi une partie de notre stratégie dans le travail que nous faisons dans cette zone.
Quel pourrait alors être le rôle de la MONUSCO pour que ces crimes ne restent pas impunis et que, par exemple, la CPI se saisisse de ces dossiers carrément?
Je voudrais clarifier une chose. La CPI, ce n'est pas un tribunal qui est censé se substituer à la justice congolaise. La CPI intervient quand il y a impunité, intervient quand la justice nationale n'est pas en mesure de répondre. La CPI, c'est ce qu'on appelle la justice complémentaire. Ce n'est pas une justice de substitution. La justice congolaise est la meilleure placée pour rendre justice aux citoyens, pour permettre à des victimes d'être présents dans le procès et de confronter les criminels qui ont commis des crimes qui les ont affectés. Donc notre objectif, ce n'est pas d'appeler une justice internationale. Ce que nous voulons, c'est que ces criminels répondent de leurs actes, d'abord devant la justice congolaise, et s'il y a difficulté ou s'il y a besoin de demander l'appui de la CPI, le gouvernement congolais peut le faire, et la CPI peut décider de se saisir d'un dossier si elle considère que la justice nationale n'est pas en mesure ou n'est pas en train de faire ce qui doit être fait pour que les criminels répondent de leurs actes.
Parlons maintenant de la situation politique interne de la RDC qui est caractérisée ces dernières semaines par des tensions entre les partenaires de la coalition gouvernementale, le FCC et le CACH. Jouez-vous encore votre rôle de vos offices, madame?
Vous savez, mon rôle, c'est le rôle qui est inscrit dans le mandat. C'est-à-dire que notre présence dans ce pays, nous sommes le partenaire de la RDC, donc notre rôle, c'est de stabiliser ce pays. Mon rôle de bons offices, c'est d'aider tout le monde. Je rencontre la société civile, je rencontre l'opposition, je rencontre l'ancien président, l'actuel président, les parties prenantes des deux parties et d'autres pour les aider. Si mon rôle peut être positif, s'ils considèrent que je peux appuyer dans le cadre de mon rôle de bons offices, je le fais, je le ferai, je continuerai à le faire. Mais je ne veux pas avoir la prétention ou dire que c'est moi qui vais faire les choses. Je fais les choses lorsque les Congolais sont prêts à m'ouvrir l'espace, lorsque eux, ils ont la volonté de faire en sorte que ces bons offices soient utiles. Jusqu'à présent, ils m'ont donné cette chance de les aider, de travailler avec eux, et je continuerai à le faire.
Madame la représentante spéciale, merci.
Merci de m'avoir donné l'opportunité de parler à tout le monde et de pouvoir communiquer avec vos auditeurs. Merci beaucoup.
C'est la fin de ce journal mis en onde par Bob Landou, Noëlla Luzitou a assuré la coordination. Axel Gontieu était à la supervision. Merci de votre sympathique attention et merci de l'avoir suivi.